Troisième témoignage, la même vieille personne raconte des histoires de sorcellerie dans son village.
Elle avait été à la foire avec son mari vendre une bête. Hein, bon. Et puis vous savez, là-bas, on vous dit je vends, je vous retiens, on vous donne, à l'époque on donne 5 francs comme ça, et puis je viendrai la chercher dans 2 heures, 3 heures, enfin bref. Vous savez, les maquignons ne sont pas prêtés. Et alors, le maquignon ne revenant toujours pas, puis eux, ils étaient là depuis 9 heures du matin, ils avaient faim, tous les deux, ils tenaient toujours la vache, là. Alors, elle qui était méchante, mais alors c'était une personne, je vous dirais, très très méchante, en plus. Alors elle dit, saloperie, ou ce qui est parti encore celui-là, tiens, il ne vient pas, je souhaite qu'il attrape une colique et qu'il en crève. Comme ça, elle dit, hein. Et une heure après, on voit venir le maquignon. Elle dit, excusez-moi, j'ai été malade, mais oui, malade, j'ai eu une de ces coliques. Voilà. Et bien, écoutez, elle l'avait dit, et je vous jure qu'il y avait plein de gens là. Ça, alors, vous lui avez sauté au mauvais sort, vous savez, les gens ont dit comme ça. Et le bonhomme est venu malade, et il dit, excusez-moi, je viens chercher la vache, mais j'ai été malade, je n'ai pas pu venir avant, j'étais chez un café, là, je n'ai pas pu démarrer avant. Et bien, tant mieux qu'elle dit, tiens, je vous l'avais souhaité. Enfin, une autre fois, c'était un... Moi, je vous parle de ça, à cette époque-là, j'étais jeune. Hein. C'est elle qui me l'a raconté, ça, mais je devais avoir 9-10 ans. C'était juste avant la guerre, à peu près. Alors, très peu de camions passaient par chez nous. Il n'y avait pas de voiture, de camions, tout ça. Il n'y avait que des camions de bois qui passaient. Alors, ce qui fait que nos volailles et tout ça, c'était toujours à travers la route. Pourquoi on allait rentrer les bêtes, puisqu'il n'y avait pas de voiture. Mais oui, mais là, ce jour-là, justement, il y avait un camion qui passait, et il y avait notre canne avec 12 canards derrière, à travers. Alors la canne s'occupait de ses petits, s'occupait pas du camion. Et lui, qu'est-ce que vous voulez, le camion, il descendait une côte, il a pas pu éviter la canne, tuer la canne. Hein. Éviter les canards, mais il a tué la canne. Alors elle sort, et elle le traite de tout, naturellement, et elle lui dit, espèce de salaud, je souhaite que ton camion n'aille pas plus loin que le village, que tu ne puisses plus démarrer. Et je vous jure que c'est vrai. Et on voit arriver 20 minutes après le bonhomme, où elle est cette saloperie de sorcière. Je viens de casser le fond de mon camion, je me suis démarré. Je vous jure que c'est vrai, ça. Eh bien, elle dit, tant mieux, comme ça, ça me paye la canne. Eh bien, c'est ça. Et le bonhomme, je vous dis, je vois, c'est un jeune homme, même un gars jeune, il était chauffeur, qui revient, mais voilà cette saloperie de sorcière.
Il a pensé que c'était elle qui avait...
Ah ben oui, le bonhomme a revenu.
C'est fantastique.
Et une autre fois, dans ce que je vous raconte, ça c'est un truc de fantôme, si vous voulez. Hein.
Et alors ça, c'était la mère...
C'est sa mère nourricière.
La mère nourricière.
Ah, c'est votre mère
nourricière. Oui, elle n'a rien. C'était, elle était espagnole, elle n'a rien avec moi. Hein.
Oui, d'accord. Oui, d'accord.
Ma mère était une grande amie, jeune fille. Et quand ma mère est décédée, j'avais 5 ans, j'ai voulu la suivre. Vous comprenez, voilà l'histoire. Et mon père, qui n'avait pas envie de s'occuper de moi, m'a mise en nourrice chez elle. Puis après, j'ai été le marmiton, la bonne et
tout ça. Ça rappelle un peu ce qui s'est passé dans ma famille.
Et puis ça finit par être, j'ai été jusqu'à 26 ans, la bonne, la martyre, la tout ce qu'on veut. Bon. Ou une autre fois, elle avait des démêlés avec une personne du village, parce que Dieu sait si elle en avait des démêlés. Elle s'était fâchée, je ne sais pas du quoi. Enfin bref. Mais comme elle jetait toujours des sorts aux gens, cette pauvre femme, elle avait eu 4 enfants, et elle accouche du 5e enfant. Et quelqu'un, vous savez, dans les villages, c'était ça, peut-être en... C'était pendant la guerre de 14, vous avez qu'à voir. Ça devait être en 16 ou en 17, attention. Et alors, elle dit, quelqu'un dit, ben, il y a... Je ne sais comment s'appeler cette femme, elle dit, elle est en train d'accoucher, mais elle va mourir, elle s'en sortira pas. Vous savez, c'était les gens du coin qui vous accouchaient, elle s'en sortira pas. Mais... Et alors, elle apprend ça. Elle faisait, on habitait quand même, je vous dis, une maison dans les bois, nous, hein, tout seul, loin de, à 1,5 km du village, sans lui bien, sans rien, vous voyez. Alors elle apprend dans la journée, bon, elle est morte, cette femme de course. Alors elle, tout de suite, elle dit, cette vieille saloperie, tout ce qu'elle m'a fait, pour aller au ciel, si elle veut rentrer au paradis, il faut qu'elle vienne me demander pardon si elle veut rentrer au paradis. Mais vous dire, vous voyez un petit peu l'esprit. Il faut qu'elle vienne me demander pardon si elle veut rentrer au paradis parce qu'il n'ira pas. Alors, le soir, elle avait fait comme je vous dis, elle avait fait son pain. Elle avait ses gosses tout petits, là, la Tati, là, et puis Jean-Marie, ils étaient tout petits. Alors, elle sort, et les chiens aboyaient, elle avait deux chiens, heureusement, parce qu'il fallait des chiens là-bas. Oui. Et aboyaient, ils reculaient, les deux chiens, ils reculaient, mais, dit, mais qu'est-ce que c'est que ça? Parce qu'elle dit, c'est une femme toute seule, vous voyez, un petit peu, hein, bon. Et alors, chez nous, on les pique pour qu'ils attaquent, parce que comme ça, les chiens attaquent et mordent, sautent sur la personne. Mais les chiens, au lieu de sauter, reculaient toujours, elle se trouve, hein, mais qu'est-ce que ça peut dire? Alors, elle prend son bâton, parce qu'elle était patrouillarde, ça c'est vrai, et elle sort. Alors, la maison était comme ça, il y avait un grand mur, et en bas, il y a un grand chemin, c'était tout la maison était en haut perché. Alors, je vous dis ce qu'elle m'a dit, elle nous a dit bien des fois, une grande boule comme un grand mouton, mais sans tête. Une grande boule blanche s'est présentée sous son caillou, là. Et les chiens aboyaient toujours. Alors elle, comme elle avait pensé à l'autre qui était mort, alors elle dit, attention. Elle dit, oh, toi, c'est, ah oui, qu'est dit vieille garce, c'est l'âme de cette personne, que je connais pas le nom. Eh ben, comme elle dit comme ça, bon ben va, tu peux t'en aller, je te donne le pardon, tu peux rentrer. Et la boule est tombée dans le chemin. Je vous jure.
Elle est tombée, elle a disparu.
Elle a disparu.
Oh.
Et sa fille, là.
Il y avait un témoin de cette scène?
Ah non, elle était toute seule, elle avait pensé. Elle était toute seule. Elle avait peut-être des visions, comme je vous dis, c'était peut-être une personne qui avait des trucs, je sais pas.
Curieux.
Mais il y avait quand même des chiens qui aboyaient, ça, elle a pas inventé.
Ça,
hein.
C'est quand même un. Ça, des gens ont été témoins. Oui.
Qui avait peur.
Pour les chiens qui aboyaient.
Bah non, il n'y a pas de gens témoins, personne.
Ah ben c'est la nuit, et puis
il y avait
personne.
Désolée, hein. Elle était toute seule.
Ah oui, il y avait les deux gosses qui dormaient, elle n'a pas réveillé les deux gosses, là. Ils dormaient, les deux
gosses. Curieux,
hein. Et ma fille, enfin sa fille, la tati qui est là, elle me dit, moi elle me faisait peur. Je t'assure qu'elle était dangereuse. Quand elle souhaitait mal à quelqu'un, ça arrivait. Mais c'était vrai. Elle souhaitait quelque chose à quelqu'un, pas vous étiez sûr qu'il l'avait.
Non mais je...
Bon, alors, tout d'abord, ce village où nous étions, c'est un village qui est... La route ne monte pas plus loin que ce village, dans la montagne.
C'est un cul-de-sac.
C'est un cul-de-sac. Mais après, on peut monter à pied, passer de l'autre côté de la montagne, pour tous les touristes. C'est un village qui a plus que 4 cheminées qui fument. Vous dire que les gens sont partis de là-bas. Et les maisons, les vieilles maisons, sont ou à vendre ou à louer. Et ma fille a acheté une maison là-bas. Et dans cette maison, nous allons passer de temps en temps nos vacances, au monde. Et cette année-là...
C'était en quelle année?
En 1967, le 17 juillet, oui. À 1h15 environ du matin, que l'événement s'est produit. Je l'ai bien noté parce que c'était tellement important. Et pourquoi nous étions dehors à 1h15? C'est là toute la question que les gens pourront peut-être se poser.
Vous étiez avec votre femme?
J'étais avec ma femme, avec mon frère et sa femme, plus un voisin qui était cherché. Parce que la cause pour laquelle nous nous trouvions à cette heure-ci devant la maison, une raison un peu tout à fait...
Personnelle, familiale.
Non, pas familiale, enfin, mon frère.
Ça n'a aucun rapport avec...
Non, mais enfin, je peux le dire, c'est pour... après, vous vous prêtez pour... c'est un voisin qui était... La dame me criait pour le secours, nous ne sommes pas intervenus, bien sûr.
Oui, d'accord.
Et c'est à ce moment-là, à 1h15, que sur la montagne qui se trouvait à notre droite, il est sorti comme une fusée, comme un peu d'artifice.
Vous connaissez le nom de cette montagne?
La montagne du... Nous, on l'appelle le pylône parce qu'il y a un pylône dessus et puis c'est...
Il y a le nom du village qui...
Nicolex.
Nicolex, c'est dans...
Nicolex, c'est par la Baume, Haute-Savoie.
Ah oui, d'accord.
Voilà. C'est avant Saint-Jean et avant Morzine. Alors, nous attendions donc sur la route et c'est à ce moment qu'est sortie cette fusée. Nous avons pensé que c'était un reliquat du 14 juillet, puisque le 14 juillet avait été pluvieux, les feux d'artifice n'avaient pas été tirés. Alors on avait pensé que 3 jours après, bon bah, ils en faisaient. Mais ça a pris, ça est monté derrière la montagne, Et après, c'est venu, ça, c'est traversé toute la partie libre des, entre les deux montagnes, puisque l'autre montagne, c'est le mont Ouzon, qui est très haut. Et nous avons pu l'avoir traversé cette chose très facilement.
Comment traverser ?
De la montagne de droite à la montagne de gauche.
Ah oui, d'accord, entre les deux montagnes.
On était bien placés. On
entre les deux sommets.
Entre les deux sommets. Mais quand elle est sortie de la première montagne, c'était comme comme un feu d'artifice.
Oui, quelle forme ça avait au départ?
C'est un point très lumineux, assez gros.
Par rapport à la Lune, par exemple?
Plus petit. Plus petit. Mais alors, ça a pris comme... ça a fait ceci. C'est pas qu'elle a fait une trajectoire...
Courbe.
Elle venait de très loin, mais en sortant de la montagne, ça nous a donné l'impression qu'elle faisait ceci. Ouais.
Une trajectoire légèrement...
Voilà,
légèrement courbe.
Après, elle a traversé tout le territoire libre du ciel.
À vitesse constante?
Assez vite. Hein. Assez vite, assez vite, on a eu le temps de la voir. Très, très bien.
Et si ça avait été un avion?
Ça allait peut-être moins vite qu'un avion. Tout dépend de l'avion qu'on peut supposer. Hein.
Est-ce que c'était bruyant?
Bruyant, moi, j'ai entendu comme ce petit bruit. Ma femme ne certifie pas ça. Moi, j'ai très bien entendu. Alors, quand elle est dans notre verticale, par exemple, hein,
comment est-ce que c'est passé au-dessus du point où vous étiez dehors?
Ah oui, exactement.
À la verticale du lieu.
Et ça a présenté une forme allongée comme un gros cigare avec une très grosse queue. Alors, il s'est passé ceci, c'est que là, on s'est rendu compte que ça y devait faire chaud. Parce que alors, c'était comme les flammes, vous savez.
Et où est-ce qu'il devait faire chaud? Autour de l'engin?
Autour de l'engin et dans l'engin, parce que on le supposait, l'engin, mais on ne le voyait pas tellement. C'était...
Est-ce que ça faisait un brasillement autour, comme des ondes de chaleur?
Oui. Et vous savez, quand on prend une lime, la meule, par
oui,
exemple,
oui.
Et qu'on porte un métal, ça projette des étincelles. C'était un peu ce cas. Et ça faisait tout autour des points qui étaient encore plus lumineux, qui semblaient, à notre vue, bouillants, bien sûr, et hop, et ça partait comme ça. Alors,
la longueur apparente de ce cigare
Dans le ciel, ça pouvait représenter comme la grandeur de votre tube de...
Plusieurs lunes.
En longueur. Hein.
En longueur.
Je dis bien comme un cigare avec une grosse queue. Et alors, ça projetait tout autour, énormément de points qui...
Et cette queue, est-ce qu'elle se présentait sous forme de volute mobile ou bien une espèce de traînée fixe
Non, ça disparaissait automatiquement. Mm-hmm. Ça ne laissait pas de traîner, ni fumer, ni rien. Hein. C'était...
Est-ce qu'il y avait des aspects tourbillonnaires dans cette queue, ou est-ce que c'était linéaire, le flux?
C'était linéaire, mais on sentait qu'il y avait des particules qui devaient être détachées de ce cigare et qui devaient être très chaud parce qu'il y avait énormément de points tout le long.
Alors, est-ce que la longueur de la queue était supérieure?
Non.
Égale ou inférieure à celle du cigare?
Elle était inférieure.
Est-ce que la queue partait juste au moment où finissait le cigare, ou est-ce qu'il y avait un espace entre le début de la queue et le cigare?
Du début du cigare, on sentait que ça allait en s'élargissant. Exactement comme je...
Dans le prolongement.
Dans le prolongement.
Il n'y avait pas d'espace entre la fin de la tuyère
Non. Et je vous dis, tout le long du cigare...
Le départ de cette queue était à peu près de la grosseur du cigare, plus gros ou moins gros?
Ben, c'était de la même grosseur, puisque ça faisait ce genre de...
Est-ce que les couleurs de la queue, est-ce qu'il y avait plusieurs couleurs? Est-ce que cette couleur était la même que celle du cigare?
Non, il y avait plusieurs couleurs, mais des couleurs qu'on peut représenter par le feu, par un feu important, vous savez, des flammes très visibles... je sais pas, un produit quelconque qu'on ferait brûler.
Quelle couleur à peu près?
Il y avait cette couleur-là, il y avait du...
Un orangé violent.
Très violent. On sentait qui devait...
Et le cigare aussi était de cette couleur.
Oui.
Tout était la même couleur.
Oui, tout était la même couleur.
Et est-ce que la lumière du cigare était fixe? C'était, disons, quelque chose de... Est-ce que, contrairement à la queue, est-ce que c'était quelque chose, une lumière uniforme, stable?
C'est-à-dire que, moi, pour moi, la queue, je pense que c'est le froissement de l'air, peut-être, et la vitesse que ça devait peut-être aller, je ne sais pas. On ne peut pas l'évaluer, ça, depuis sur la Terre. C'était ce qui faisait qu'on voyait cette queue.
Est-ce que ce cigare avait des extrémités pointues ou biseautées?
Non, on ne peut même pas distinguer si c'était...
Les bords étaient-ils nets?
Non, parce qu'il était entouré de...
Ah oui, de ce espèce de halo
de points, des points qui paraissaient excessivement chauds aussi, bien sûr.
Et quand il s'est éloigné en perspective, vous l'avez toujours vu sous la forme d'un cigare en perspective?
Il a diminué quand il est passé sur la montagne de gauche, on le voyait, on n'était plus dans la même perspective.
Mais enfin, ça pouvait toujours être une espèce de cigare ayant une orientation différente.
Exactement.
Par rapport à vous.
Mais par contre, ce que j'ai su par les journaux, c'est que l'observatoire de Genève, il l'a signalé.
Oui.
Mais ils l'ont pas vu de le récit du journal n'est pas le même que celui que nous avons vu.
Oui.
Nous. Et
c'est quel journal?
Ah, je pourrais pas vous dire.
Oui, d'accord.
Je pourrais pas vous dire.
C'est un journal qui est apparu le lendemain.
Sur l'Italie, ils l'ont vu aussi. Parce que là, automatiquement, on arrive à la frontière italienne tout de suite et il a passé de l'autre côté. Et une fois la montagne passée, j'ai entendu comme un bruit d'une explosion, mais qui fait un peu comme quand un avion passe le mur du son, mais éloigné.
Mm-hmm.
C'est tout. J'ai dit, tiens, il a pété l'autre côté.
Il a
pété l'autre côté.
Ah oui, pour vous, il y a eu un accident.
J'ai dit, tiens, il a explosé, là, ça va.
Est-ce que ça vous paraissait, justement, être comme un engin en difficulté, ou alors est-ce qu'il allait librement entre...
Librement, oui, et puis, pas de difficulté, hein. Mm-hmm.
Ouais. Est-ce que cette trajectoire était régulière, ou est-ce qu'elle était...
Régulière. Elle n'a pas varié de sa traversée dans le ciel, elle est restée, on peut dire, reculée, quoi.
À la fois sur le plan angulaire,
ouais.
Sur l'angle de la trajectoire, la vitesse était constante?
Constante, toujours la même.
Elle a disparu derrière la montagne, la deuxième montagne, ou alors elle a disparu, se poser.
Elle a disparu. Je pense même qu'elle allait accrocher, moi.
Ah bon?
Quand ça se présente comme ça, on a l'impression que la montagne...
Cet objet évoluait à peu près à la hauteur des sommets de ces montagnes.
Ben, à mon avis, moi, je croyais qu'ils étaient à hauteur de la montagne. J'avais peur qu'il y ait le choc.
Est-ce que ces deux montagnes ont une altitude égale à peu près?
Non, elles sont différentes.
Ah bon.
Les monts Ouzans sont à gauche, sont beaucoup plus hauts, et c'est parti que du rocher, là-haut. Il n'y a plus de bois, il n'y a plus rien, hein, c'est un peu de neige. Tandis que l'autre est plus basse.
Mais revenons au départ. Quand c'est parti, est-ce que la vitesse a tout de suite été celle que cet engin avait...
Elle s'est maintenue toute la traversée.
Dès le départ, c'était la même vitesse.
La même traversée, ça a été
pas une accélération.
Pas d'accélération.
Visible.
Mais alors, ça faisait quand même important dans le ciel qu'il nous restait libre en visibilité entre les deux montagnes. Hein. Parce qu'en face, il y a encore une autre montagne. Alors, elle a passé dans ce champ.
Quelle était la situation du ciel d'après vous, selon vos souvenirs à ce moment-là? Est-ce que le ciel était pur? Est-ce qu'il était nuageux?
Oui, il était très bien, puisque...
Les étoiles étaient visibles?
Nous avons été appelés pour cet incident qui se passait là-bas, et on pensait que...
Si vous aviez à mettre des lunes les unes à côté de l'autre, des autres... comme ça, à la verticale du lieu, vous en auriez mis combien à peu près pour avoir la longueur de l'engin, avec sa traînée?
Des lunes vues de face?
Oui, comme ça, une pleine lune, quoi, oui.
Oh, il y en a plusieurs, hein?
Plusieurs.
Ah oui. Ah oui.
Ouais. Alors, est-ce que... À quoi vous avez pensé, vous et votre famille, en voyant ça?
Eh bien...
La même chose.
Oui.
Est-ce que vous avez demandé si les autres voyaient ce que vous voyez, vous?
Oui, exactement. Je suis prêt à vous le confirmer. Oui. J'avais deux petits-neveux qui dormaient dans la chambre en dessus et qui étaient des jeunes. J'ai dit, on a voulu aller les chercher, les réveiller pour leur faire voir. Hein. Malheureusement, le temps de les réveiller, tout ça, c'était trop tard.
Dans la nuit qui a suivi, quand vous êtes endormi, disons, par la manifestation autour de vous, il n'y a rien de spécial.
Rien. Mm-hmm. Et par contre, là, j'ai une amie, là, qui est au village de Péterne, qui est juste en dessous de Tenon, face où vous allez aller en crête de neige, qui, elle, en allant à son travail le matin, de nuit, s'est trouvée dans un chemin qui longe un bois, elle s'est trouvée devant un appareil qui s'est posé, alors.
Oui, j'ai un témoignage de ce genre.
Qui s'est posé, alors elle a été surprise.
Je vais aller voir cette personne.
Ah, ben, elle vous le racontera.
Je vais aller voir, j'emmènerai son
appareil. Oui. Ah, oui.
Son témoignage a été enregistré?
Eh non! Mais rien du tout. Moi, j'aurais voulu que le journal en fasse part, mais ils sont pas montés, ils ont eu des ennuis de je sais pas quoi, et ils n'ont pas pu envoyer des enquêteurs sur place. Parce que ma position n'était pas la même que ceux qui étaient à Genève au bord du lac, hein, attention.
Mais son témoignage à elle, c'était pas le même jour.
Ah non, elle, c'est plus récent, parce que moi, c'était en 67. Hein.
Quand vous avez vu cet engin, partir de la montagne, est-ce que vous avez cru qu'il décollait ou alors est-ce que vous avez pensé que c'était un hasard et qu'il franchissait cette montagne?
Il franchissait cette montagne, on sentait qu'il venait de l'autre côté de la montagne.
Donc il ne décollait pas?
Non,
un passage.
Non, c'est un passage, on s'est trouvé sur le passage.
Est-ce que vous pouvez donner une idée de la durée pendant laquelle vous avez enregistré le phénomène?
Bien écoutez,
vous avez vu le phénomène.
Ça vient, disons, 3-4 minutes.
Quand même.
Ah oui, parce que nous l'avons remarqué, au départ c'était donc un point très lumineux, puis après on a vu qu'il se trouvait donc plus à l'horizontale et qu'il formait ce genre de cigare. Quand il était devant nous, on a voulu aller appeler les enfants, le temps de faire le tour de la maison, de monter les réveillés, de les secouer, qu'ils étaient dans leur premier sommeil. Ils sont arrivés trop tard.
Ce bruit, c'était un... Est-ce qu'il a accompagné toute la course de l'objet?
Oui, et j'ai l'impression que c'est le frottement de l'air...
Est-ce que c'était un sifflement, un chuintement, un grésillement?
C'était plutôt... Je ne sais pas comment vous allez appeler ça. Je vais faire le bruit parce que je l'ai encore dans la tête.
C'est un espèce de ronronnement sourd.
Oui, mais... qui ne pouvait pas produire de moteur. On dit.
Ah! C'est comme une vibration.
Oui. Alors, mais alors ça, moi, sur le frottement de l'air.
Est-ce que la direction, parce que j'ai un témoignage assez curieux, c'est pour ça que je vous posais la question qui paraît bizarre, si vous voulez. Est-ce que la direction du bruit vous a semblé toujours venir de la direction supposée de l'objet? Est-ce que la direction du bruit coïncidait avec la direction de l'objet visible?
Oui, très bien. C'est-à-dire que tout dans sa course, je l'ai entendu et il s'était senti qu'il a passé de l'autre côté.
En vous repérant, par exemple, au bruit, c'était bien conforme à... Ça vous semblait bien venir de cet endroit?
Ah oui, ça ne pouvait pas venir d'autrement. Hein. Mm-hmm. Du reste, nous avions une belle nuit ce jour-là. Cette nuit-là, il n'y avait pas de raison qu'on puisse se tromper. On a tout le monde.
Est-ce que vous vous souvenez... Bien sûr, avec une carte, on pourrait retrouver l'orientation, mais enfin...
L'orientation, eh bien...
La direction générale, la direction était bien précise, c'était
une
direction.
Ah oui,
c'est le nord, c'est le sud.
C'est-à-dire que le lac Léman, c'était donc le nord-ouest, et il allait sur le sud-est, c'est-à-dire...
Le nord-ouest-sud-est.
Il a traversé, s'il venait, par exemple...
Donc il allait vers l'Italie.
Du reste, il a été repéré en Italie.
D'accord.
Et là, depuis, je n'ai pas eu de nouvelles, c'est malheureux parce que...
Et dans votre famille, tout le monde est d'accord sur la... Disons, sur votre... Sur la façon dont vous décrivez ce...
C'est mon frère qui va la semaine prochaine, il pourra vous dire la même chose.
Donc vous êtes
sous-marin dans la marine, il serait heureux de pouvoir vous le dire aussi.
Et dans votre entourage, donc, en comptant toutes les personnes qui ont vu exactement ce que vous avez vu, vous êtes la première personne à l'avoir signalé aux autres, non?
Ah non, nous étions les cinq réunis. Ça a été automatique, hein.
Parce que c'était tellement fort comme lumière que vous avez été attiré, quoi.
Oui.
Est-ce que ça éclairait alentour?
On a eu l'impression, oui, que ça dégageait un éclairage, forcément, puisque...
Est-ce que les arbres, par exemple, sur la montagne...
Ah non, alors, industrielle.
Ah, alors qu'est-ce que ça éclairait d'après vous?
L'espace, on sentait qu'il y avait un espace qui était éclairé.
Mais les objets n'étaient pas éclairés.
Non, ça n'a pas produit d'éclairage sur Terre, ni sur les âmes, ni sur les sapins. Nous sommes entourés de sapins.
Oui, parce que j'ai d'autres témoignages qui confirment le vôtre, de lumière violente qui éclaire l'espace en quelque sorte, mais qui n'éclaire pas les objets.
Exactement, c'est bien ça. Parce qu'on l'a très bien vu, la montagne d'où elle est sortie, de derrière d'où elle est sortie, est très boisée de sapins. Et puis, de l'autre côté, il y a une partie boisée, puis après c'est les rochers, parce que c'est à plus de 2000. Mais vous la verrez quand vous allez venir là-bas, ça, j'aurai l'occasion de monter, puis vous montrer exactement ce qu'il en est.
Donc ça fait, à votre connaissance, dans votre entourage, ça faisait en tout combien de personnes qui ont vu en
même temps? Nous étions 5.
5 personnes.
5 personnes.
Bon, bah écoutez, je crois que...
Oui. Je serais quand même... J'ai tellement été frappé par cette chose que maintenant, quand il y en a qui voient quelque chose et qui le signalent, je n'en rigole pas comme il y en a qui font. Parce que, l'ayant vu, nous... ce que j'aurais aimé savoir, c'est...
Vous m'avez dit que vous êtes quelqu'un qui avait l'habitude d'avoir l'œil vif et l'esprit clair, puisque vous êtes...
Oui.
Qu'est-ce que vous faisiez exactement?
J'étais gardien de la paix dans le 18e arrondissement de Paris. Mm-hmm. J'ai toute ma carrière entre Figale, Montmartre et tout ça.
D'accord. Vous étiez assermenté, donc?
Oui, j'étais assermenté.
D'accord. Bon,
ouais, non, c'était une chose sensationnelle.
C'est la seule fois dans votre vie, pour l'instant, vous avez vu quelque chose de ce genre.
Mais alors, quand cette amie, la fille de nos amis, nous a raconté ce qui lui était arrivé, eh bien, elle a eu peur. Forcément, elle a été toute seule dans la voiture. Du reste, elle ne repasse plus sur ce chemin. Parce qu'elle a vu poser cet appareil. Elle n'a pas vu ce capteur sortir, par exemple.
Bah, j'irai la voir.
Ah oui, je serais heureuse de vous...
J'irai la voir, vous pouvez lui annoncer ma visite.
D'accord, avec plaisir.
Bon, ben, je vous remercie.
Très bien.
Ce témoignage a été recueilli le mercredi 28 janvier 1981 par M. Deforge Gérard, enquêteur agréé du GPEXT à Éragny-sur-Oise, Val d'Oise.
Bon, alors,
tout d'abord, ce village où nous étions, c'est un village qui est... La route ne monte pas plus loin que ce village. Dans la montagne.
C'est un cul-de-sac.
C'est un cul-de-sac. Mais après, on peut monter à pied, passer de l'autre côté de la montagne, pour tous les touristes. C'est un village qui a plus que 4 cheminées qui fument. Je veux dire que les gens sont partis de là-bas. Et les maisons, les vieilles maisons, sont ou à vendre ou à louer. Et ma fille a acheté une maison là-bas. Et dans cette maison, nous allons passer de temps en temps nos vacances, au monde. Et cette année-là,